Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le vendredi 22 avril 2022 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 3, épisode 113. Plein de références au 113 dans cet épisode. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de la méga présidentiable Laetitia. Avec elle, c'est le débat de l'entre-deux-tours chaque semaine. Je dois me tenir sur mes gardes, elle a tous les arguments qui font mouche et tous les coups sont permis pour gagner son argumentation. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
LC2 vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Au sommaire de cette émission, des news simples, fatales et brutales. La fin des haricots pour Netflix, Deliveroo et WhatsApp dans la tourmente. Une embellie peut-être pour Louis Vuitton du côté du métaverse et Mark Zuckerberg en patron de la Creator Economy. Cette semaine, on passera le mic à un nom, que dis-je, à The Expert du retail media. Il s'agit de Lawrence Taylor.
Et comme à chaque fin d'émission, on terminera avec du fun et on vous challengera autour des jeux du digital et des actualités de la semaine. Laetitia.
Adrien.
Prêt. Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
WhatsApp Pay est disponible en Inde pour un quart des utilisateurs, c'est-à-dire 100 millions d'Indiens, là où le mobile paiement, enfin le paiement par mobile est quand même hyper démocratisé, et bien pour des raisons de régulation, WhatsApp Pay est uniquement disponible pour une partie de la population.
Marks & Spencer lance une nouvelle collection de location avec la plateforme High Street.
Netflix, la dégringolade. Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à l'année 2021, fin 2021, et son action a dégringolé mardi à Wall Street de plus de 24%.
Deezer prévoit d'entrer à la Bourse de Paris fin juillet. Ils ont fait exprès de venir pour la référence des années 90. Ils reviennent dans le game.
Travail dissimulé. Je vous le disais en intro, c'est la fin des haricots pour Deliveroo France ou pas. Deliveroo est condamné à 375 000 euros d'amende.
Les levées de fonds et les rachats de la semaine. Cette semaine, Laetitia, quelle levée de fonds? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant?
C'est pas hyper folichon, hein, ça laisse pas trop. Hein. Bon, j'ai retenu que Joli Moi, une plateforme de social selling, a levé 7 millions. Déjà pas mal.
Laetitia, qu'est-ce que tu avais comme news what the fuck de la semaine?
Totalement what the fuck. C'est Instagram qui a décidé de préserver notre santé, notre vie, tout simplement. Instagram a décidé que entre être sur Instagram, scroller ou conduire, il fallait choisir. Instagram veut en effet dissuader de poster des stories en conduisant. Alors d'après une étude d'AXA, plus de 8 conducteurs sur 10 utilisent leur téléphone au volant. Et Instagram veut vraiment vous prévenir. Donc lorsque vous allez allumer ouvrir votre application Instagram et que l'application a détecté que vous étiez au volant, eh bien vous aurez un message qui vous bannira et vous dira « Non, si tu es en train de conduire, tu ne peux pas publier. »
Et comment ils peuvent détecter que tu conduis?
Je pense qu'ils ont des espèces de capteurs, tu sais, c'est comme Waze.
Ah, c'est dans l'application alors.
C'est dans l'application, ouais.
Parce que ça se déplace, etc.
Bon, totalement, what the fuck, parce que exactement, voilà. Exactement ça, encore plus fluide.
Et si on est passager, comment ils savent si on est passager et pas conducteur? Non, ils savent
pas. Ah, je sais pas.
Peut-être qu'ils demandent quoi.
Mais je crois que c'est. Peut-être qu'ils demandent, peut-être qu'ils te préviennent. Attention, êtes-vous bien passager? Êtes-vous bien conducteur? Bon. Tout ça pour dire que déjà, il y a beaucoup d'Instagrammeurs qui se filment en train de filmer et qui se filment en train de conduire. Ça, c'est vrai. En tout cas, surtout sur Snapchat. Une grande consommatrice de Snapchat, je vois plein de gens toujours en train de conduire et je me dis comment ils font. Jusqu'au jour où j'ai quand même compris que c'était à l'envers. Donc, ils n'étaient pas eux en train de conduire, c'était côté passager.
Et enfin, la news inutile dont on s'en balèque. Laetitia, il y a une news inutile cette semaine qui t'a marqué.
Assez inutile. Alors, j'étais contente, je vois cette news. France Transfert, le gouvernement lance son oui transfert souverain. Un oui transfert français, je me dis, oh, c'est génial. Oui, alors, petite précision. Vous pouvez l'utiliser, c'est quand même hyper limité, vous avez jusqu'à 100 envois je crois par semaine, mais surtout il faut que le destinataire ou l'expéditeur soit un agent de l'État, donc un fonctionnaire. Donc en gros, si tu dois envoyer des papiers volumineux à une administration, tu peux le faire. Si une administration veut un agent veut t'envoyer un dossier très volumineux, il peut utiliser France Transfert. Donc un peu inutile. Ou pas, je sais pas. Mais je vais continuer à utiliser WeTransfer, je suis désolée. Au début, je me réjouissais, mais là, non, je n'ai pas assez d'amis fonctionnaires dans mon entourage à qui envoyer des documents importants et lourds.
Quoi de neuf chez nous? Quoi de neuf chez nous? C'est la rubrique où on va parler de nous, ce qui s'est passé chez nous dans ces derniers jours. Alors, c'est l'épisode 113. Bien sûr, pour ceux qui sont assez âgés, ils ont la référence.
Alicia m'a dit,
il faut absolument. Il faut absolument qu'on change tous les jingles. Donc, branle-bas de combat, j'ai dû aller chercher, refaire des jingles en vitesse. Et puis, pour la plupart des vous, d'entre vous, je suis sûr que vous aurez les références. Et on va sûrement se faire bannir de plein de plateformes en utilisant ces sons. Mais c'est pas très grave. Ça sera un épisode collector. Alors, Alicia, quoi de neuf chez toi?
Quoi de neuf chez moi? Trois news. J'ai déjeuné avec une auditrice du podcast qui me courait pas après, mais ça faisait plusieurs fois qu'elle me proposait et à chaque fois, ça tombait à l'eau.
Elle veut pas donner son nom, non? Comme toutes les nanas avec qui tu déjeunes.
Elle accepte. Elle s'appelle Safa et Safa, elle nous écoute depuis son agence. Elle travaille en agence, une agence spécialisée dans l'UI, l'UX. Et souvent, elle me donnait des petits conseils ou elle rebondissait sur ce que je disais au micro. Et puis un jour, elle m'a dit, tu veux pas qu'on déjeune ensemble? Et oui, donc on a réussi à déjeuner ensemble et c'était plutôt bien. Elle m'a beaucoup posé de questions sur la jeunesse du projet. Enfin, c'est souvent les questions qui reviennent. Et puis surtout, comment on fait, le temps, l'organisation. Voilà, un peu les coulisses du podcast. C'était super sympa. On a discuté de plein d'autres choses, de projets, de féminisme, de révolution aussi, et de politique. C'était vraiment très cool. Alors, je sais qu'Adrien, lui, le fait très très souvent. Enfin, toi, tu le fais très souvent. Moi, c'est un petit peu plus, de manière beaucoup moins récurrente, en tout cas. Mais c'est fort, fort appréciable. Donc, peut-être que je vais accepter d'autres déjeuners, je sais pas. La deuxième chose, c'est que j'ai assisté à un TEDx. Alors, faut savoir que je suis une grande fan de TEDx. J'en consomme beaucoup. J'ai même le livre.
Arrivé les TEDx maintenant, c'est fini.
Ouais, mais j'adore. J'adore. J'ai même le livre, tu vois, pour me préparer si un jour je dois faire un TEDx sur l'e-commerce.
Parle de toi, fais des blagues pas marrantes et puis parle de généralité.
C'est scénarisé. En revanche, là, j'étais au Panthéon, donc quand même dans un endroit où il fait très froid, hein. J'ai vraiment eu très très froid, mais c'était une soirée qui était dédiée sur la parole. Et en sortant de ce TEDx où 5 personnes parlaient différemment de la parole, de la prise de la parole ou de la non-prise de parole d'ailleurs, sur des sujets vraiment divers et variés, on a eu de l'immigration, on a eu du féminisme, on a eu de l'improvisation, on a eu même un avocat qui nous a pris à partie et on était un peu dans un espèce de jeu de rôle. Et en sortant, je me suis dit, mais on n'a pas parlé des nouvelles prises de voix, en fait, de prises de parole, comme les podcasts. Voilà. Et surtout, j'ai retenu plein de choses, c'est que parfois, quand on ne parle pas, même dans une émission, même quand on est journaliste, eh bien, il faut savoir laisser les silences se poser et s'imposer. Et j'ai retenu pas mal de choses, notamment pour que moi, je m'améliore au sein de ce podcast.
Parce que vous savez, tu laisseras un peu plus la parole, c'est ça?
Tu crois que c'est pas que dans les coupes et les recoupes et les montages, il y a plein de choses qui passent à la trappe.
Mais tu les oublies, donc tu sais plus exactement ce qu'on a coupé.
Non, je sais tout. Mais j'accepte. Mais oui, peut-être qu'effectivement, il faut que j'arrête de couper la parole et que j'accepte que l'autre ait sa prise de parole. Voilà. Et surtout, il faut que j'arrête de faire comme ça. Ça, c'est très important. La troisième chose, et alors c'est une chose auquel je ne m'y attendais vraiment pas du tout, c'est une chose qui est arrivée comme ça, un peu à la vraiment last minute, j'ai dû remplacer quelqu'un au pied levé, je ne sais même pas si je remplaçais quelqu'un ou s'il n'y avait vraiment personne au début, mais j'ai animé, c'était une table ronde sur le e-commerce, c'était absolument pas prévu, il voulait une femme impérativement, sinon Adrien, bien évidemment que je pourrais citer ton nom, que je pourrais dire, Adrien peut le faire, il est beaucoup plus libre que moi, il est beaucoup plus intelligent que moi.
Je fais rien de ses journées, en plus il est dispo, donc vas-y. Mais bien sûr.
Il est dispo jour et nuit surtout, que moi tout le monde sait que la nuit je ne fais que dormir, et la journée aussi. Non, mais il y avait une particularité, s'il fallait que ce soit une femme, donc j'ai accepté. L'idée, c'est que c'est une boîte qui s'appelle Hortus Club, je crois, ou Horus, Hortus Club, oui, et qui organise des dégustations avec des experts, avec un sujet bien précis. C'est pas enregistré, c'est vraiment tout ce que tu détestes en plus, Adrien, c'est un peu très, pas élitisme, en tout cas, c'est un petit entre-soi. Et donc, j'y suis allée avec pas mal d'a priori. La réalité, c'est que quand j'arrive dans la salle, boum, je vois des têtes que je connais. Et donc, ça m'a mise à l'aise. Et figure-toi que quand j'ai commencé à me présenter, que j'ai parlé du podcast, il y a quelqu'un qui a levé la main, qui a dit « Mais oui, c'est Laetitia du podcast, j'écoute le podcast et je vous le conseille. » Et là, j'étais quand même contente.
T'as réussi à placer, à faire de la pub, c'est pas mal. Il y avait combien de personnes?
J'étais obligée. J'avais même ce fond, hein. Je me suis dit que si j'y allais. Il y avait 16 personnes. Tout était orienté autour d'une dégustation avec des vignerons. Et le sujet, c'était quels sont les défis du e-commerce, bien évidemment, post-Covid, post-pandémie. Et dans l'assistance, il y avait des e-commerçants, il y avait des éditeurs de solutions, mais tout secteur confondu. Et c'était plutôt bien parce que quand je posais la question, mais vous, quelles sont vos préoccupations? J'avais l'impression d'avoir pas mal de choses qu'on s'était déjà dit ici dans le podcast. Mais surtout, il y a des choses sur lesquelles moi je te croyais pas, où je me dis ouais, il a inventé ça, ou il a envie de briller. Par exemple, le dernier kilomètre, tu vois, c'était hyper important pour pas mal de personnes dans l'assistance. Un truc où là j'étais trop heureuse, le truc qui compte vraiment, c'est le Green IT. Alors c'est comme ça qu'il appelle. Nous on va parler de sustainability, choses comme ça. Et alors là j'étais encore 3 fois plus contente, 10 fois plus contente. Un sujet qui est arrivé comme ça, c'est l'accessibilité. Et j'étais bien contente, bien évidemment, des sujets autour du métaverse, des NFT, du quick commerce, donc j'avais plein de choses à dire, bien évidemment, mais l'idée c'était pas que je parle trop, en fait, c'est plutôt que je donne la parole aux autres, et là c'est compliqué, et surtout que j'avais pas encore assisté à cette fabuleuse TEDx. Tout ça pour dire que c'était avec des hommes, il y a eu une femme, c'était plutôt cool, j'essayais de lui donner la parole tant que je pouvais. Mais c'était plutôt bien, et surtout d'avoir des retours comme ça de gens qu'on a l'habitude de côtoyer, mais peut-être que j'écoute pas assez. Voilà pour ma semaine. Et toi, Abdi?
C'est passé plein de trucs, ouais. J'ai l'impression que ma semaine était très très chiante, du coup, comparé à ça. Moi, deux petites choses. La première, c'est je continue l'exploration, on va dire, des solutions du marché, et à continuer à faire ma veille, à essayer d'avoir des démos de solutions et comprendre un peu l'infrastructure. Et oui, Laetitia, je passe mes journées comme on peut.
C'est surtout que tu le dis là au micro, mais je le sais aussi. Par d'autres sources.
Ah bah voilà, bah justement, donc ce qui est sympa, c'est que des personnes, mais c'est juste des coïncidences, il se trouve que depuis quelques semaines, des personnes viennent me voir et me disent: Adrien, j'aimerais bien te faire une démo, te montrer ce qu'on fait et tout ça, et moi j'adore bien sûr regarder, comprendre un peu mieux comment les choses fonctionnent. En l'occurrence là, ça tournait autour des marketplaces, et tu vois, on parle toujours de miracle, mais il y a quand même des concurrents, en tout cas des alternatives, je vais le positionner plutôt comme ça, beaucoup d'alternatives, beaucoup qui existent à l'international, et je voulais en citer quelques-unes que j'avais identifiées en France. Alors, ils ont chacun leur positionnement, leur segment, mais en tout cas, pour ceux qui s'intéressent à des marketplaces, on a Oro Marketplace, on a Sidecore, on a Vtex, on a Iceberg, ils ont tous des plus et des moins, il n'y a aucune solution, la meilleure solution du marché, mais en tout cas, je vous invite à les regarder. Il y en a peut-être une qui manque, c'est Spryker, qui n'a pas encore de bureau en France, à ma connaissance, je sais qu'ils sont intéressés pour ouvrir quelque chose en France, mais voilà, donc il y a des belles solutions de technologies de marketplace qui existent en France, et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés pour ces projets de marketplace, à regarder un petit peu ce que font ces solutions.
Oui, Miracle n'a pas le monopole de la marketplace, effectivement.
Ouais, exactement, il y a plein d'alternatives, et ce qui est cool, c'est que ces alternatives, il y a des bureaux français, donc il y a des francophones qui peuvent vous faire des démos, vous montrer, vous expliquer, etc. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et deuxième petite chose, je sais pas comment j'ai atterri là-dedans, mais j'ai assisté à une c'est pas une conférence, je sais pas trop, c'était quoi, c'était un Zoom, on va dire, mais c'était même pas sur Zoom. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient connectées, et c'était peut-être que tout le monde connaît ça déjà, c'est un groupe ou une boîte qui s'appelle Founder Co-Founder, et en fait je voulais assister à des pitchs, et j'ai trouvé il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est la variété, on va dire, des sujets. Il y avait une dizaine de startups qui ont peut-être moins de 2 ans d'existence, mais qui ont déjà des clients ou un produit, ou qui sont quand même assez avancés, on va dire. Ils ne viennent pas juste de commencer, ils ont quelque chose à montrer. Et on avait des sujets comme data visualisation, solutions d'authentification, marketplace de coworking, marketplace de freelance, nutrition digitale, économie circulaire, etc. J'en ai fait juste quelques-unes. Et on voit, encore une fois, moi, je regarde un peu l'angle e-commerce, le digital e-commerce, et j'étais content de voir que peut-être la moitié de ces solutions, c'est soit des solutions en SaaS qui touchent de près ou de loin, qui pourraient être adressées, qu'on pourrait vendre ou proposer à des marques, ou c'est tout simplement des enseignes, des DNVB, des D2C, ou on les appelle comme on veut, des enseignes qui ont comme canal principal de l'e-commerce. Et à ton avis, c'est quoi le profil principal qui est recherché par ces co-founders? Ils ne cherchent pas juste un co-founder, enfin, s'ils cherchent, mais avec une certaine sensibilité, tu dirais quoi?
Attends, je comprends pas tes questions.
Tu as un co-founder qui présente, qui pitch, il est tout seul, et il cherche un co-founder, mais avec quoi? Il veut plutôt quelqu'un qui soit technique, plutôt qu'il soit sales, plutôt qu'il soit management, finance, legal, produit,
les profils
marketing.
Les profils techniques, c'est toujours ce qu'on recherche et ce qui est compliqué à trouver.
Et moi, je suis arrivé, je me suis dit, ils vont tous vouloir des CTO, des mecs, des brutasses de la tech. Eh bien, pas du tout. Je crois que 50% recherchaient des head of sales, des profils commerciaux.
Ah ouais.
J'étais choqué. Et je me suis dit, mais attends, il y en a partout. Mais en fait, parce que j'évolue dans un domaine où il n'y a que ça autour de moi.
Du coup, ta candidature de rien ou...
Non, pas du tout. J'ai juste regardé. J'en ai ajouté un sur LinkedIn et je l'ai félicité pour son pitch parce que je trouvais ça très intéressant. Et puis, je voulais juste l'encourager. Mais non, j'ai juste regardé.
Mais
j'ai trouvé
ça. Après, quand tu... Donc, le gars vient, il fait son speech.
Il y a des sessions de one-to-one. One que tu peux.
Ah, d'accord.
Enfin, c'est, ouais. Bon, je suis pas resté. Je suis resté que. Tout le monde sait que je suis impatient comme tout. Donc, je suis resté dès qu'ils ont fini les pitchs. Merci, au revoir. Et je suis parti. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, il y en a sûrement plein de ces speed dating où tu as deux minutes pour pitcher ta solution des startups. Et nous, Laetitia, on en rencontre plein des startups. On en voit plein. Mais surtout, dans l'e-commerce, là, j'ai trouvé ça intéressant de sortir. Et startups en général, il y a quand même un paquet qui sont dans le digital marketing ou e-commerce de ce qu'on fait. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On passe à la suite.
T'as pas trouvé de remplaçant en co-founder pour le café de l'e-commerce? Je crois pas que quelqu'un vient on stage et dit « je recherche quelqu'un pour animer le podcast ».
Ah ouais, c'est ça. Ça. Média, podcast, e-commerce, etc.
Ça.
Non, impossible.
Et on est bien dans Amazon, là, hein?
On est dans Amazon.
Ok, Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon. Penzas Breakdown. Non, j'y étais pas.
Presque. Parce que presque. Mais bon. Amazon, il s'est passé quelque chose. Mais je sais que t'es concentré que sur la musique, donc on va pas pouvoir parler, c'est ça,
vas-y.
Exactement. Et ça va arriver, mais ça met toujours 3 heures.
Je me crois dans un karaoké, là. Vas-y,
il y a eu
qu'est-ce qui s'est passé?
Trois petites choses qui sont passées sur Amazon. Voilà, c'est bon, Laetitia, elle est contente. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant, elle va m'écouter, sinon elle m'écoutait pas. Deux petites choses et une grosse chose. La première, on a appris qu'Amazon allait mettre en place, débloquer un fonds $1 milliard sur les technologies en entrepôt. À mon sens, c'est déjà ce qu'ils font, c'est déjà ce qu'ils faisaient ces dernières années, ils continuent à investir. Donc, c'est un gros chiffre, c'est un très, très gros chiffre, même si c'est réel, $1 milliard, ce que ça veut dire. Mais ça m'étonne pas plus que ça, parce qu'on sait qu'ils sont très avancés et qu'ils continuent à développer beaucoup de choses dans les entrepôts. Deuxième chose, et vous avez tous les liens, Amazon qui est sanctionné d'une astreinte de 90 000 euros par jour pour des clauses déséquilibrées. C'était passé il y a quelques jours, on ne l'avait pas couvert la semaine dernière. Je vous laisserai regarder un petit peu de quoi il s'agit. C'est encore une fois pour les sociétés qui travaillent avec Amazon et qui ne sont pas. Il y a un rapport de force qui est déséquilibré et ils ont été sanctionnés. La grosse news, Laetitia, c'est pas ça. La grosse news qui a complètement, c'est un gros séisme dans l'e-commerce, j'ai envie de dire. C'est potentiellement, alors peut-être que ça va pas du tout marcher parce qu'il y a toujours des rageux qui expliquent qu'il y a plein de projets Amazon qui n'ont rien donné et ils ont laissé tomber. Mais là, je pense qu'on a un gros truc. C'est quoi? C'est le Amazon qui propose l'option Buy with Prime, donc le bouton acheter avec Prime, acheter en tant que Prime, pour les marques en dehors de son site. Donc tu vas pouvoir, en tant qu'enseigne, avoir un petit bouton d'achat, comme tu as un bouton ton PayPal ou acheter avec ta carte, ta CB ou quoi que ce soit, tu auras acheté avec Amazon. Alors ça existe déjà, l'Amazon Checkout, mais là tu vas avoir le Buy with Prime, BWP, qui va te permettre non seulement d'acheter avec Amazon, mais tu vas pouvoir récupérer les informations bancaires, les informations de livraison, et tu vas également pouvoir être livré directement en 24 heures, 48 heures, enfin très rapidement par Amazon. Pour le moment, c'est que par invitation aux États-Unis, c'est uniquement disponible pour les marchands, les sellers qui appartiennent au réseau FBA, c'est Fulfilled by Amazon. C'est en gros ces enseignes qui envoient tout leur stock chez Amazon, dans les entrepôts Amazon, et ensuite ils vendent sur la marketplace. Mais du coup, c'est pas eux qui envoient le produit, mais c'est directement Amazon qui l'envoie. Donc ils sont en train de transitionner. En tout cas, ils n'ont pas du tout caché le fait qu'ils vont le mettre à disposition de tout le monde et à terme, dans les prochains mois ou prochaines années. Je pense que ça va aller vite. Il y a 200 millions d'utilisateurs Prime aujourd'hui, donc c'est potentiellement 200 millions de personnes qui vont pouvoir utiliser leur abonnement Prime sur des sites tiers. Oui, Laetitia.
Mais et du coup, ce serait comme un Amazon Pay sur un site tiers.
Exactement.
Mais sauf que c'est uniquement pour les membres Prime, c'est ça. Donc ça restreint encore un peu plus.
Ouais, mais bon, ça te donne un avantage en plus pour les Prime. Et j'ai pas envie de dire sauf, c'est en plus, tu as le paiement plus la livraison. Mmh. Là, c'est extraordinaire. Tu payes avec
et
Amazon.
Et donc le service après-vente aussi.
Exactement.
Okay.
Quelques petites
choses en bref. Ça révolutionne le paiement, tout ça.
Tu étais en train de spoiler mes analyses et mes conclusions. Mais c'est exactement ça. Alors attends. Analyse, quelques petites idées en vrac. La première, c'est la semaine dernière, on en parlait, puis ça fait des mois que je dis de manière bête, un jour Amazon, le jour où ils vendraient leur technologie ou ils le proposeraient en marque blanche, ça pourrait avoir un impact monstrueux, mais ils le font pas parce qu'ils le gardent, c'est leur innovation. Et là, ils commencent à sortir un peu comme ce qu'ils avaient fait avec AWS, avec leur cloud, ils commencent à sortir ce qu'ils ont développé en interne et ils le proposent en dehors de leur écosystème, de leur site. Donc je trouve que c'est un move qui est intéressant. Les PME, elles vont complètement adorer parce qu'elles veulent pas se prendre du tout la tête avec toutes ces choses-là. Elles n'ont pas les ressources en interne. Ils veulent quelque chose de très très simple. Donc ils vont kiffer. Les clients vont surkiffer aussi. En tout cas, les clients Prime, parce qu'on achète régulièrement, parce qu'on aime la marque, etc. Et puis pour le côté simpliste, moi je suis à 1000% dans cette cible. J'ai plus envie de créer des comptes sur des sites tiers. Si demain je vois qu'avec mon compte Amazon, je peux acheter sur des sites tiers, je sais que ça va m'engager beaucoup plus avec des marques auxquelles j'aurais jamais acheté. Ça va permettre également à Amazon de récupérer beaucoup de data off-site. Ils ont déjà leur first party data, tout ce qui se passe sur leur site. Avoir un bouton à l'extérieur, je ne sais pas encore comment, mais je me dis que ça va permettre de lancer d'autres services. Je pense qu'ils ont déjà énormément de données de toute façon, mais ça va permettre d'augmenter encore plus le nombre d'informations, la connaissance des clients, la connaissance des produits qu'ils ne vendent pas nécessairement sur leur marketplace à terme, quand ils vont pouvoir le proposer à n'importe qui. Et enfin, tu le disais, enfin on en parlait tout à l'heure, la logistique Amazon, elle est de très très haut niveau. Le suivi des commandes en temps réel, la qualité du service, le support, etc. On peut imaginer qu'une marque qui commence à outsourcer toute cette partie-là, parce qu'on parle vraiment de ça, on parle d'outsourcer la logistique pour Amazon et le paiement, ils ont moins de besoin de support, ils ont moins de clients mécontents parce que le transporteur a fait n'importe quoi ou parce que le produit s'est perdu ou quoi que ce soit. Et en plus, les produits arriveront plus vite. J'ai fait une catégorie ceux qui pleurent, parce qu'il y a forcément, il y a toujours des contents et des gens qui ne sont pas contents. On a un podcast optimiste, donc on parle plein de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, Laetitia? Toi, tu pleures?
Non, je dis, il y a toujours des chouineurs.
Ouais, exactement. Les chouineurs, déjà, tu en parlais, c'est le paiement. Là, c'est clair, les fintechs, elles doivent se chier dessus, parce que tu es en train de te dire, c'est plus le moyen de paiement. Et puis, donc, tu vois, les paiements plusieurs fois, BNPL, etc. Ok, mais tu sais quoi, on ne va plus t'utiliser, ça va prendre du temps, des années, etc. Et en plus, on parle là, principalement des petits comptes, je pense. Mais en tout cas, les fintechs de paiement, à mon avis, elles vont avoir un impact dessus. Les boutons type PayPal, ça, c'est directement en concurrence avec le paiement PayPal, malheureusement pour PayPal. Également, je pense, les one-click checkout, tu sais, les boutons, le face qui a complètement fermé, la valeur qui est proposée, c'est proposer le bouton, un bouton
c'est
unifié,
de la rapidité,
tu vas pouvoir simplement acheter. Mais là, Amazon, il arrive, il pose sur la table, on va te permettre ça, et en plus, on te fait la livraison. Je pense que à mon avis, s'ils se réinventent pas vite ces solutions-là, je vois pas trop comment elles peuvent faire durer face à un Amazon. Mais encore une fois, ce sera toujours la guerre du Amazon versus les autres solutions. Il y a plein de marques qui voudront pas payer avec Amazon, mais on parle pas justement, à mon avis, les très grosses marques continueront à avancer sans être sur Amazon. Mais tout le mid-market ou des marques qui veulent aller vite ou qui ont un positionnement différent, elles seront très contentes. Donc je continue. Les grosses marques, elles vont pas kiffer du tout. Parce que déjà, ils ne veulent pas être hébergés sur du Amazon. En plus, elles voient arriver ce bouton, donc ils ne sont pas contents. Les one-click, je les ai parlé, les fintech, les transporteurs. Et là, c'est surtout les transporteurs locaux. Pareil, tu vois, on est à le cliché du... je ne vais pas en citer, mais tu vois, les postes locaux, enfin, en tout cas, les transporteurs locaux, ils te mettent des coups de pied dans les colis pour qu'ils arrivent, etc. Ça arrive dans des états complètement désastreux. Et là, tu dis, Amazon, OK, il y a aussi des problèmes avec Amazon. Je suis en train de dire que tout est parfait. Mais en tout cas, on peut se dire que la qualité de service, elle est super, parce qu'ils sont peut-être... je sais pas, ils sont peut-être
j'avais dire
mieux payés, mais en fait ils sont peut-être plus traqués avec des caméras
exactement.
Dans tous les sens.
On a moins le droit de donner des coups,
ouais,
on est beaucoup plus surveillé quand on travaille avec
surtout
Amazon.
Surtout si tu reçois mal ton colis, le mec il a une mauvaise note, c'est l'algorithme qui te vient, on en a déjà parlé malheureusement. Donc bref, les transporteurs, ils ne doivent pas être contents, mais surtout les transporteurs locaux, parce que les transporteurs de niche, à mon avis, pas pour tout de suite, ou ceux qui ont du vent. Ouais, je pense typiquement les UPS et compagnie, je pense que pour le moment, ça, ils risquent pas grand-chose. Quoique, on sait qu'aux États-Unis, ils sont en concurrence directe et ça viendra sur à un moment donné. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas content, c'est Shopify. Et Shopify, pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils prennent un pourcentage des ventes qui passent sur leur plateforme. Également, ils prennent un petit pourcentage sur le paiement. Et là, ça sera quelque chose qui va leur échapper. Ils ont notamment complètement dévissé en bourse là-dessus. Finalement, la bourse, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'en tant que consommateur, tu vas avoir un nouveau service qui va arriver. Si ça a autant de succès ou même 1% du succès qu'a Amazon, ça va aider énormément de marques à émerger. Peut-être des marques qui ont tendance à pouvoir être dans l'écosystème Amazon à vendre. Et encore, pas forcément. forcément, parce que tu peux avoir un design canon, ne pas vouloir être sur la marketplace Amazon, mais tu as le bouton parce que ça simplifie. Et je t'enverrai encore une dernière chose, c'est le bouton d'achat, c'est bien, mais tu as aussi le Google Checkout, je le vois pas partout, et pourtant c'est très simple d'intégrer avec Google. Donc je pense que c'est vraiment le combo paiement plus la livraison Prime rapide que tu vas pouvoir offrir à tes clients, qui est un combo juste
donc là, Adrien, c'est disponible aux États-Unis, c'est ça, sur certains
ouais c'est
marchands.
Que aux États-Unis, mais ils n'ont pas du tout caché le fait que ça va s'ouvrir à tout le monde et qu'ils vont
tu prédis une Bérésina, c'est ça, tu penses que ça va péter?
Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler et ça peut être vraiment pas mal, j'ai hâte de tester, mais
moi aussi, ce que j'allais dire en fait, ok, ça va être la merde, mais franchement, si je peux être bêta testeuse en France, les gars, je suis là.
Direct, j'achète n'importe quoi, mais je veux juste tester.
Moi aussi.
Métaverse, okay. Métacommerce, Métanews, c'est la rubrique dédiée au métavers. Que vous soyez novice, expert ou juste curieux, on vous embarque dans le métavers, on met son masque de réalité virtuelle et on active tout. Laetitia, de quoi tu vas nous parler ?
Je vous parle de Louis Vuitton qui a décidé de poursuivre sa lancée sur les NFT et qui va lancer de nouveaux NFT. Ça aurait pu être une news what the fuck ou coin-coin, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà bien lancés, mais non. Alors là, c'est beaucoup plus dans la gamification. Ils vont beaucoup plus s'orienter sur l'aspect de gamification. Voilà, c'est un peu no news. Hein. J'ai l'impression que Louis Vuitton était déjà bien ancré dans les NFT. J'ai une deuxième news. C'est Meta qui propose de mettre à disposition des créateurs, alors ce qu'on appelle la créateur économie, oui, creator economy, qui propose de mettre à disposition des créateurs des outils de monétisation. Alors, Mark Zuckerberg, il est vraiment magique parce qu'il leur dit, mais écoutez-moi les gars, donc il a déjà constitué une petite armée un petit cercle de créateurs, en leur disant, vous allez aller notamment sur Horizon World, vous allez pouvoir vous amuser et pouvoir créer des objets que vous allez pouvoir mettre en vente, voilà. Et alors, ce qu'il leur dit aussi, c'est par contre, les cocos, moi, je vous fixe des objectifs. Si vous voulez être payé, il va falloir que vous remplissiez vos objectifs. Un petit peu comme s'ils étaient à la fois des créateurs et aussi des vendeurs. Donc, des sales, comme on connaît, nous, si bien, avec des objectifs. Et c'est la même chose. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut dépasser vos objectifs, les atteindre et les surpasser. Mais ça ne déçoit pas et ça ne perturbe pas les créateurs parce que ils sont déjà pas mal. Je crois qu'on a plus de 10 000 personnes qui ont répondu à l'appel de Mark Zuckerberg. Donc voilà, Mark Zuckerberg, il veut toujours sa part du gâteau. Il est quand même formidable. Et en même temps, on l'a déjà dit à ce micro-là, oui, effectivement, il crée tout de A à Z. Comment est-ce qu'il se rémunère? Il a parfaitement trouvé son business model. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est la rubrique de la rumeur. Il y a un gros gossip en ce moment qui circule. Adrien est sur le dos. Adrien, c'est quoi la grosse rumeur du moment?
J'ai activé toutes mes taupes là, tous mes indiques, tous ceux qui savent ce qui se passe dans le monde. Et non, je rigole. En fait, ça fait tellement de bruit qu'on le met dans la rumeur parce que ce n'est pas encore confirmé. De quoi il s'agit? C'est Shopify qui serait en train d'acheter une boîte qui s'appelle Deliver. Vous connaissez rien, vous comprenez rien. On y arrive. Je vais tout vous expliquer. Avant de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, Deliver, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un 3PL ou un 3PL. C'est 3PL, c'est pour third party logistique. C'est un acteur qui va, c'est un peu, ça reprend la discussion qu'on a eu tout à l'heure, c'est un acteur qui va s'occuper de toute la partie logistique. Toi, tu t'occupes de vendre et lui va s'occuper de prendre ton produit et de le ramener, de l'acheminer jusqu'à ton consommateur. Pour le mettre hyper simple, c'est de l'outsourcing ou de la délégation de toute la partie supply et logistique. Deliveroo propose, la manière dont ils marketent le truc, c'est qu'ils te proposent le bouton Prime pour les marques. Ils disent, un avantage concurrentiel qu'a Amazon contre les marques, c'est cette option Prime, cette livraison et cette facilité. Nous, on te propose la livraison en 2 jours, n'importe où, avec une qualité de service optimale, etc. Ils ont levé 250 millions de dollars en novembre dernier et aujourd'hui, ils sont valorisés 2 milliards de dollars. Donc, de quoi il s'agit ? Shopify est en discussion avec cette société, avec Deliver, pour un rachat autour de 2 milliards de dollars, parce qu'ils ont levé de l'argent il y a quelques mois, ils sont valorisés 2 milliards. Ça serait le plus gros achat pour Shopify. Ce n'est pas encore confirmé. Et c'est quelque chose qui serait complètement dans l'ADN de Shopify, qui est, cher marchand, toi, ton travail, c'est de faire de l'acquisition de trafic, de travailler sur ton site, de vendre ton produit, d'animer ta communauté. Nous, on va s'occuper de tout le reste et du back-office. Et ils avaient déjà investi dans le passé sur des outils dans les entrepôts, etc. Du coup, Manque de bol, le timing il est juste catastrophique. Enfin, c'est quelle coïncidence d'arriver juste au moment où Amazon propose justement ou commence, annonce. Et c'est peut-être Amazon qui a joué. Je sais pas exactement en termes de timing comment ça s'est fait, mais en tout cas dans la même semaine, on apprend deux gros acteurs qui lancent deux initiatives comme celle-ci. C'est pas rien pour Shopify, hein, parce que la promesse elle est juste énorme, elle est juste magnifique pour les marchands de pouvoir tout intégrer. Je vais utiliser mon expression que je fais attention de plus utiliser, c'est le sens de l'histoire. Ben oui, mais c'était le sens de l'histoire que Shopify propose ce genre de solution, parce qu'on est vraiment c'est de la philosophie de Shopify, c'est d'aider les marchands à en low code de manière très simple à vendre leurs produits en ligne. Et toute cette partie, c'est chiant de prendre un produit, de le mettre dans un carton, d'aller à la poste ou d'imprimer des étiquettes, de les mettre, de les envoyer, etc. C'est une partie qui est pas du tout sexy, qui est pas du tout intéressante, qui a peu de valeur ajoutée pour une enseigne ou pour une marque. Et donc du coup, un rachat ou en tout cas un partenariat avec un rapprochement avec Deliver, ça aurait été bien. Pour le moment, c'est une rumeur, donc je veux pas en parler pendant deux heures. Ça se trouve, il va rien se passer. Et donc du coup, on va suivre ça. Si je ne sais pas dans quelle mesure ce qui se passe avec Amazon, ça va accélérer ou ralentir ou annuler peut-être ces discussions qui sont en cours. Mais là où l'année dernière, il y a encore quelques mois, je criais partout, non, faut arrêter de comparer Shopify et Amazon. Et ben, on se rend compte qu'ils arrivent quand même à trouver des terrains où ils sont en concurrence frontale. Avec un positionnement complètement différent. C'est pas le seul moment d'en discuter, mais oui, il y a des choses qui sont en train de se passer qui sont incroyables. Ouais, Laetitia, qu'est-ce que t'en penses?
Non, mais je disais que oui, effectivement, on arrive au terrain de la castagne et l'octogone est pour bientôt. Moi, j'ai jamais été aussi sceptique autant sceptique que toi sur la propension que Shopify pouvait avoir à pas concurrencer, le mot est très fort, mais en tout cas aller sur des terrains sur lesquels Amazon était déjà bien implanté. Papaya, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi.
C'est vendredi soir, ça fait très karaoké. C'est parti pour la rubrique, Laetitia, ou on écoute la musique? Je voulais passer l'extrait que tu adores, mais on va être censuré dans tous les sens.
Bon, passe le mic. C'est le moment où on partage le mic avec un ou une invitée. Cette semaine, c'est un invité. Nous avons passé le mic à Laurence Taylor, qui est fondateur.
Non, c'est Laurence, Laetitia, tu
j'arrive
le sais
pas,
en plus.
J'arrive pas. Non, mais on s'appelle Laurence. Enfin, on s'appelle, non. Il s'appelle Laurence Taylor. Mais autant le dire à y aller à fond. Laurence
Taylor. Et c'est donc tu le renommes. Franchement, si quelqu'un a remixé ton prénom, t'aurais fait un scandale. T'aurais
appelé. Laurence Taylor, fondateur de Brand 4 Retail. Brand for Retail.
Ouais, Laurence nous a fait l'amitié d'accepter le micro, de venir échanger avec nous. C'était un superbe échange qui a pris beaucoup plus de temps parce qu'on était complètement engagés dans la discussion. Donc on l'écoute tout de suite.
Et nous recevons Laurence de Retail for Brands. Laurence est le fondateur de Retail for Brands. Bonjour Laurence.
Bonjour Laetitia.
Bonjour Laurence.
Bonjour Adrien.
Comment vas-tu?
Très bien.
Très bien. Bon, mais je suis ravie parce que je reprends les interviews. Ça faisait un moment, je m'étais un petit peu éclipsée. Et je suis ravie de reprendre les interviews avec toi. Est-ce que tu peux brièvement nous dire qui tu es, ce que tu fais au sein de Retail for Brands? Bon, on a compris que tu étais le fondateur, mais qu'est-ce que c'est que Retail for Brands?
Pour moi, le nom, il est très... On peut comprendre ce que tu fais à Retail for Brands. J'aime bien. Ouais. C'est le nom de boîte où tu peux comprendre un petit peu de quoi il s'agit.
Ouais, il fallait que ça soit écrit sur la boîte, tu vois. C'est la boîte dont le nom est écrit sur la boîte et tu comprends ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qui je suis? Donc, comme tu l'as dit, je suis le créateur de Retail for Brands. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. On est des spécialistes du digital retail. Et ça veut dire quoi le digital retail? Eh ben, c'est l'optimisation de la présence des marques et des industriels sur les sites de retail. Et un des leviers qu'on va activer, le principal levier qu'on va activer, c'est le retail média.
Laurent, c'est intéressant parce que, avant que tu poursuives dessus, excuse-moi, c'est on regardait un petit peu dans notre autour de nous avec Laetitia parce qu'on voulait aborder ce sujet de retail média et ton nom est revenu plusieurs fois. Donc, félicitations pour le travail que tu as fait parce que
c'était
tu nous
l'un
as été
des premiers
recommandé.
Noms.
Exactement.
Qui
et donc, spécifiquement
dans
avec
demande.
Retail for Brands, ouais, qu'est-ce que vous faites en retail média ou comment ça se passe?
Eh ben, nous, en fait, on va travailler avec une marque. On va identifier en fait les leviers de croissance pour les aider à augmenter leur chiffre d'affaires sur des sites de digital retail. On commence et très souvent on va travailler dans l'environnement d'Amazon parce qu'Amazon c'est un acteur majeur en termes de chiffre d'affaires. C'est aussi un acteur saillant dans les organisations, ce qui va toujours provoquer une déprise de décision, des avis, et on va travailler dans cet environnement-là. Ce qui est intéressant aussi avec Amazon, c'est que c'est un environnement où tu as énormément de leviers, c'est extrêmement plateformisé, donc tu vas pouvoir aller chercher des opportunités de développer tes produits, ton chiffre d'affaires, ton contenu, etc., etc.
Laurence, tu parles tout de suite d'emblée d'Amazon. Moi, j'aimerais savoir si au tout début, quand tu as commencé Amazon, c'était dans tes plans, c'était aussi dans les plans des retailers que tu accompagnes. Et comment est-ce qu'on aborde un Amazon d'un point de vue retail média? J'en ai aucune idée.
Déjà, une petite définition du retail média pour que tout le monde comprenne un peu le sujet
oui.
dont on parle.
Sois à l'aise.
Le retail média, c'est finalement la capacité d'exploiter des données comportementales des shoppers pour augmenter la visibilité des marques sur les sites de digital retail. D'accord. Donc nous, notre travail, c'est d'optimiser en fait la part de mètre linéaire des marques sur les sites de digital retail. Pourquoi Amazon est aussi important? C'est parce qu'en fait, le phénomène de retail média a commencé, on va dire, il y a 7-8 ans. À l'époque, ça représentait moins d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, ça représente déjà 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et Amazon en capte, on va dire, les deux tiers. Donc c'est pour ça qu'Amazon est un acteur majeur. Même si tu ne vends pas sur Amazon, eh bien ce qui se passe dans l'environnement d'Amazon va avoir un impact en fait sur l'ensemble du retail média. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le retail média est très fortement contributeur en termes de valeur ajoutée et de marge pour les retailers. Donc tous les retailers le regarde, que ce soit Carrefour, Cdiscount ou des acteurs plus niches du domaine du retail.
Laurence, est-ce qu'on peut dire, c'est simplifié de dire ça, mais que Amazon a lancé ou a créé ce segment de retail média, ou en tout cas, il l'a popularisé?
Alors, je dirais qu'il l'a relancé. En fait, si tu regardes un petit peu en arrière, le retail média, c'est à peu près aussi vieux que le retail. Depuis aussi loin qu'on s'en souvient, les retailers proposaient aux marques de mieux valoriser leur présence dans les magasins. Finalement, c'était ça le retail média. Mais Amazon a renouvelé en fait ce genre avec une approche plus plateformisée, avec des retours sur investissement plus forts et avec une transparence qui est beaucoup plus élevée.
Et d'ailleurs, Laurent, c'est pour ça qu'on parle, enfin, je ne sais pas si toi tu en parles, mais je vois parfois écrit, enfin, on voit parfois le e-retail média pour mettre la distinction et montrer que justement, avec tous les outils qui arrivent, il y a une nouvelle vague ou une nouvelle ère de retail média. J'avais noté plein de questions que je voulais te poser, mais peut-être d'abord, pourquoi on en parle en 2022? Pourquoi c'est quelque chose qui est intéressant ou c'est un enjeu important pour les marques d'en parler aujourd'hui? Et je vois de plus en plus côté start-up, des boîtes qui se lancent ou qui se positionnent dessus, ou côté, tu as parlé de Carrefour, côté, on va dire, géant ou gros sites ou gros enseignes se positionner aussi dessus?
Alors, il va y avoir plusieurs facteurs. Le premier, on en a déjà parlé, c'est l'impact que ça peut avoir sur la marge des retailers, parce que c'est un produit à marge très élevée. Et quand tu es dans le domaine du retail où tu as des marges de 3-4%, ben, c'est tout de suite notable dans le compte de résultats des retailers. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça donne un retour sur investissement à un certain nombre de marques sur lesquelles elles avaient du mal à avoir un retour sur investissement. Quand tu es Danone, le digital, tu vends très peu de yaourts directement à ton consommateur final. Et ben, pour la première fois, grâce au retail média, tu sais que quand tu fais de la publicité sur des sites de retail média, ben, tu vas avoir un retour sur investissement de 5, de 10, de 15 pour toutes ces marques-là.
Là, pour l'exemple de Danone, pardon de te couper, c'est un exemple. Danone irait sur la plateforme Carrefour, payerait des mots-clés ou des positionnements, des bannières, etc. Et quand quelqu'un chercherait du yaourt, Danone serait dans les premiers résultats. Ça sera un exemple concret de ce que ça signifie, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que là où le retail média est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'en digital retail, a un comportement du consommateur qui passe par une navigation search, comme tu peux l'avoir sur Google. Et en fait, ce que Amazon a fait, c'est qu'ils se sont rendu compte, c'est un moteur de recherche produit, de la même manière que Carrefour va l'être. Et donc, on va utiliser les codes qui ont fait le succès de Google, avec le système d'enchères qu'on connaît tous, avec le système de CPC, et qui va donner tout de suite une visibilité entre l'action qui est menée par la marque et l'impact que ça va avoir. Et c'est aussi un des facteurs qui explique le succès du retail média.
Laurence, moi, quand on m'évoque le concept de retail média, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé encore depuis le début de cette interview, c'est le mot publicité. Alors très bêtement, ça vient comme ça, moi, ça pop dans mon esprit. Donc j'y associe le retail média beaucoup à la publicité. Est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Deuxième point, j'imagine que ça agrège énormément de données. Est-ce que les retailers sont en capacité d'interpréter les données qui sont générées par le retail média? Et j'ai une troisième question, ça fait peut-être un peu beaucoup, c'est sur la gestion des contenus. J'imagine que c'est très, pas chronophage, mais en tout cas, ça demande énormément de production de contenu et de de distribution de contenu, le retail média. Comment est-ce qu'on gère ça? Avec quel outil? Bon, j'ai ma petite idée, mais trois questions en une, c'est beaucoup. Excuse-moi.
Mais finalement, allez, on va dire qu'il y a deux questions. La première, par rapport à ta question, le retail média, c'est de la publicité? Oui, mais pas seulement. C'est de la publicité paid et c'est de la publicité owned. Et qui va relier finalement au contenu que tu vas créer. L'objectif du retail média, c'est de renvoyer vers un produit. Et donc, tu dois valoriser ce produit via finalement ton contenu que tu vas avoir qui sera hébergé par le site du retailer. Donc, les deux sont liés. Si tu renvoies sur une fiche produit qui est mal faite, eh bien, ton taux de conversion va être plus bas. Donc, tu vas jouer vraiment sur ces deux leviers. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les retailers, ils n'ont pas attendu le retail média pour commencer à utiliser et exploiter la donnée de leurs consommateurs. Carrefour, c'est un des plus gros agrégateurs de data qui puisse exister, en fait. Ils ont des centaines, voire des milliers d'ingénieurs qui travaillent via les cartes de fidélité pour créer des personas et proposer, en fait, des produits aux consommateurs. Donc, encore une fois, si on regarde du e-retail média, c'est assez limitatif, mais si tu regardes un petit peu plus loin, tu te rends compte que finalement cet ADN lié à la data, ça fait longtemps qu'il existe. Et on parle de Carrefour, mais on peut aussi parler et renvoyer sur Amazon, parce que tu as une connaissance extrêmement profonde du consommateur et de ce qu'il achète, et tu es sur une donnée qui est beaucoup plus forte que celle que tu peux avoir chez Meta ou que tu peux avoir chez Google, parce que c'est une donnée qui est transactionnelle. C'est ce que les gens achètent réellement. Et donc tu vas avoir deux types de données, je suis un peu long, hein, mais comme tu m'as posé trois questions, je me permets d'en profiter un petit peu. Mais tu vas avoir des données qui vont être avec une fréquence très élevée chez Carrefour, chez Leclerc, parce que c'est tes achats hebdomadaires, et tu vas avoir une donnée beaucoup plus forte en termes de valeur ajoutée de produits sur Amazon, parce que tu vas acheter ton ordinateur, ta PlayStation, des choses comme ça, et ça va donner d'autres informations qui sont hyper intéressantes sur le consommateur.
L'analogie de Laetitia, elle est intéressante. Et puis moi, je verrais la pub pour plutôt accès acquisition, là où le retail média serait peut-être de la pub, mais accès conversion. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose qui a beaucoup aidé tout le secteur du retail média. C'est ce qui se passe avec les cookies. Alors, je ne vais pas aller dans les lieux communs. Oui, il y a plus d'e-commerce, etc., plus de trafic. OK, ça, on le sait. Mais surtout avec l'histoire des cookies ou la disparition petit à petit, la disparition des third-party cookies, ce qui rend peut-être le levier de la pub moins intéressant. Et du coup, on revient vers du first-party cookie. Pour faire très simple, moi, je suis une enseigne. Je connais très bien ma donnée et je peux faire de la pub. J'utilise peut-être le bon mot, mais je peux cibler dans mon écosystème parce que c'est moi qui connais, ce sont mes clients. J'ai la donnée sur mes clients et je peux vendre ces accès ou en tout cas monétiser ça. Tu vois que ça a été un accélérateur, là, la disparition du cookie ou tout ce qui a été fait sur les cookies. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, bah, Criteo, c'est un bon exemple parce qu'ils se sont cassés la gueule avec l'histoire des cookies et puis là, ils sont en train de revenir sur ce marché du retail média, non?
Alors oui, effectivement, pour Criteo, c'est une vraie priorité pour eux en termes de relais de croissance. Et je vais quand même revenir sur l'accélération du e-commerce parce que c'est une évidence, mais l'accélération du e-commerce après 2 années de Covid, eh bien, elle a permis en fait au retail média d'avoir une prise de conscience dans les organisations, en particulier des marques de FMCG, des gens qui n'avaient pas forcément entamé leur transition digitale. Donc ça reste important. Tu vois. Et en fait, la disparition du cookie tiers, quelque part, elle crée de la simplicité. Elle n'aide pas à la prise de conscience parce que finalement, souvent, c'est des canaux qui vont être différents, mais elle permet de la simplicité. On couvre assez peu des sujets de GDPR, par exemple, dans les sujets qu'on va couvrir parce qu'en fait, c'est une donnée qui est anonymisée, tout simplement parce que la donnée du retailer, il ne va pas la partager, donc tu n'as pas de problème d'information individuelle. Tu ne sors pas la data, mais là où tu as raison, c'est que certains... Les retailers vont avoir des limitations dans leur capacité d'utiliser la donnée parce qu'ils ne l'ont pas inclus encore dans leurs conditions générales de vente.
Laurence, pour faire l'avocat du diable, et je rajouterai une autre condition, mais là, peut-être tu me diras sûrement que j'ai tort. L'autre condition, c'est qu'il faut avoir suffisamment de données parce que sinon, tu connais pas assez ton client, etc. Et donc, par définition, c'est peut-être, ça s'adresse que à des happy few, le top peut-être 10% ou 5% ou 3% des retailers en France. Tu parles de Carrefour ou d'Amazon, bah ouais, mais bon, donc c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment adapté pour toutes les marques, toutes les enseignes?
Alors, je pense que les gros n'auront pas de problème. Les niches, qui sont finalement gros dans leur catégorie, n'auront pas de problème non plus. Et tu vas vraiment avoir une approche un petit peu, on va dire, matricielle. Tu vas avoir Amazon qui sera un acteur en propre. Amazon, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, 77% du retail média actuellement. Le BCG, le Boston Consulting Group, estime que le retail média va faire x2, x2,5 d'ici 2026 et Amazon continuera à capter peut-être 60% de la valeur du retail média. Donc c'est vraiment un acteur en propre. Ensuite, tu vas avoir tous ces leaders. On pense en France à Carrefour, à Leclerc, mais si tu vas un petit peu plus loin, au UK c'est Tesco, aux États-Unis c'est Walmart, etc. etc. Si tu vends de l'épicerie, si tu es un vendeur de yaourt par exemple, tu es obligé de passer par ces gens-là. Et ensuite, tu auras toutes les niches, des acteurs qui sont un petit peu indispensables dans leur propre catégorie. Tu peux penser au monde du jouet, tu peux penser au monde de la beauté, où tu as besoin de gens comme Sephora, comme Look Fantastic, comme Nocibé. Si tu es un acteur de la beauté, ben, tu ne peux pas t'appuyer que sur Amazon et tu as besoin de travailler ces niches. Donc c'est soit go big ou go niche. Et c'est vrai que peut-être l'intermédiaire entre les deux, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, tu as un phénomène de ce qu'on appelle les retail media networks qui te permettent d'agréger en fait et de mutualiser des données pour pouvoir toucher le consommateur un petit peu partout.
Laurence, on retiendra le go big ou le go niche. Je l'ai jamais entendu. Et effectivement, bon, après, il y a quand même un gap hein, entre les deux. Mais tu as raison, il y a un choix à faire.
Connaissant Laetitia, ça va finir dans la description, ça, le go big ou go niche.
Ah, c'est sûr, je l'ai noté. C'est obligé.
S'il si y a une chose quand même dont il faut se souvenir, c'est que le retail media, ça permet de mettre en avant des produits. Ça permet de valoriser avant tout, de générer des ventes sur ces produits-là. Si tu as un mauvais produit, tu peux avoir les meilleures campagnes de retail media, les meilleurs traders, les meilleurs outils d'automatisation, tu ne généreras pas de vente. Donc, la première chose qu'on fait, nous, toujours, c'est qu'on part du produit. Est-ce que le produit il correspond à ce que le consommateur va rechercher?
Mais tu parles du produit ou de la fiche produit? Le produit, il faut qu'il soit bon ou tout? Fiche produit, navigation, checkout?
Tout. C'est-à-dire que bon, t'es pas tributaire du checkout. Le checkout, c'est le retailer qui va le faire. Tu vois, la simplicité du checkout, c'est le retailer qui va le faire. Mais en fait, très souvent, les gens prennent le sujet à l'envers. Ils commencent par dire, ben, je veux accélérer, je veux augmenter la visibilité de mes produits. D'accord? Donc, je vais faire de la pub. Mais en fait, si ton produit, il est pas adapté par rapport à ce que le consommateur va rechercher, et si tu renvoies sur une fiche produit qui représente mal les attributs de ton produit, t'as beau envoyer des centaines de milliers et ça commence des millions d'euros vers le retail média, vers ta fiche produit, vers ton produit, personne ne va l'acheter. Je donne un exemple. Sur Amazon, les gens achètent beaucoup plus des grands formats, par exemple. Si tu continues à proposer, par exemple, des petits formats qui ne correspondent pas à ce que le consommateur va rechercher ou des produits qui ne correspondent pas à la recherche du consommateur, ce n'est pas comme dans un magasin traditionnel. Les gens ne l'achèteront pas, tout simplement. Donc, avant tout, il faut commencer du produit et même une étape au-delà, il faut partir du consommateur. Si tu centres tout sur le consommateur, tu y arriveras. Et ça, c'est une vraie évolution pour les marques de FMCG qui positionnent très souvent par rapport à des logiques de brand equity. Mais là, on rentre dans un sujet un petit peu plus technique. Voilà.
J'ai une dernière question. Tu parles du consommateur, des inspirations et des aspirations et de ce dont le consommateur a besoin. Moi, j'ai un exemple en tête et je ne sais pas du tout si ça peut être du retail media, mais Pinterest, pour moi, ça, j'ai l'impression que c'est du retail media. Il y a des grands retailers de type Leroy Merlin qui uploadent toutes leurs fiches produits, tout leur catalogue, alors sur des segments bien particuliers, sur une plateforme de réseau social. Tu as des formats publicité aussi, tu as des formats vidéo maintenant sur Pinterest. Est-ce que ça rentre dans le retail media? Est-ce que c'est une stratégie payante? Enfin, en tout cas, qui est profitable pour les retailers? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu conseilles aussi?
Alors, là où tu as raison, c'est qu'en l'état actuel des choses, je ne le classerais pas dans le retail media. Mais dans l'évolution des choses, la façon dont tu parles de ton produit en dehors du site de retail fait aussi partie en fait de cet enjeu-là. Et la discoverabilité de ton produit, c'est un enjeu qui ne s'arrête pas uniquement aux retailers. Et ce qu'on voit arriver, en particulier aux États-Unis, eh bien c'est l'exploitation en fait de la donnée shopper dans des activations qui sont encore plus above the line. Et qui peuvent se faire effectivement sur de l'extension d'audience, pour faire des choses relativement simples, et ça existe déjà en France, il n'y a pas de nouveauté, mais aussi dans des formats un petit peu plus immersifs. Pinterest est un exemple, le live shopping c'est un autre exemple que je pense que vous avez couvert par ailleurs, mais tout ça, c'est des enjeux en fait que tu vas avoir. Comment tu exploites cette donnée en dehors pour augmenter la discoverabilité de ton produit, en particulier sur des produits où tu vas générer et tu vas aider au trafic en magasin.
Merci Laurence. Comment est-ce qu'on peut te contacter, te suivre?
Sur LinkedIn, c'est le meilleur moyen. Et puis si le sujet vous a intéressé, c'est des sujets dont on débat souvent avec cette communauté du retail média qui est en train de se créer peu à peu sur LinkedIn. Donc, c'est des sujets qui sont absolument passionnants. C'est complètement transformatif pour les marques. Et c'est ça qui nous intéresse le plus au final.
Donc, j'invite tout le monde. Les tiens n'aiment pas quand je recommande des pages LinkedIn, mais là, quand je vais encore le faire, parce que tu es très actif. Je te suis et tu commentes, tu likes, tu partages. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent, effectivement, je vous suggère de suivre ta page ou d'entrer en connexion. Merci mille fois, Laurence.
Du coup, je suis allée et tu es hyper engagée aussi sur LinkedIn. Enfin, tes posts, ils sont, c'est pas qu'ils sont orientés, mais tu as des convictions et ça se sent dans tes posts. Donc oui, suivez Laurence sur LinkedIn.
Laurence, au plaisir de t'avoir au micro très, très prochainement. Je suis sûr qu'on va reparler peut-être avant cet été de Retail Media et de ce qui se passe. Merci beaucoup à toi.
Tu reviens quand tu veux. À très bientôt.
Merci Laetitia. Merci Adrien.
Le Café du Cœur, c'est la rubrique qui donne un coup de pouce à une personne qui nous a sollicité. Vous voulez passer à l'antenne, c'est très années 90, vous voulez qu'on parle de vous, vous voulez qu'on vous aide, eh ben n'hésitez pas. Cette semaine, je vais vous parler de Gabrielle Parent, qui est une passionnée du digital, qui a une très grosse sensibilité produit. Et Gabrielle est à la recherche d'un poste en e-merchandising, chef de projet e-commerce, chef de produit. Pour la contacter, suivez-la sur directement LinkedIn, contactez-la directement sur LinkedIn, c'est Gabrielle au féminin. Parent comme un parent. Bonne chance, Gabrielle.
Puis n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on vous aide, qu'on passe un message ou oui. Quoi que ce soit. On est toujours là pour aider. C'est vrai qu'on ne le redit pas, mais voilà, n'hésitez
et
pas
je à nous souligne contacter. Le courage de Gabrielle qui m'a écrit un lundi matin et qui m'a dit « Bon, je prends mon courage à demain. Et Laetitia, est-ce que tu peux m'aider ?» Et je lui dis « Je t'aide comme je peux dans le podcast. » Voilà, ça peut être cool. Et je l'ai invité à rejoindre le groupe WhatsApp également. Allez, je me crois dans une soirée karaoké. Reco-micro. Au micro, on fait notre roco. Écoutez-la, illico presto. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos rocos sur la page Notion de ce podcast. Le lien est dans la description de cet épisode. Adrien, quel est ta roco ?
Écoute, c'est une reco de reco, j'ai l'impression, parce que ça a été suggéré par Laura. Elle nous a partagé ça dans le groupe WhatsApp, et d'ailleurs qui est en lien de l'émission pour y accéder. C'est l'édition 2022 de la liste Marketplace 100 ou Marketplace 100. C'est le classement des marketplaces B2C aux États-Unis, les marketplaces indépendantes, start-up. Alors, c'est moins pour la liste, parce que finalement, on est en France, donc ça peut peut-être nous intéresser moins. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les analyses qu'ils font dessus, et notamment la croissance de certains secteurs comparé à d'autres années et comment ça évolue. Donc, si on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont comparables avec ce qui va arriver ou ce qui se passe en Europe, notamment les tendances qui émergent d'abord aux États-Unis avant d'arriver, c'est toujours intéressant de voir un petit peu dans quelle direction le marché est en train d'aller. Donc, voilà pour ma recommandation. Tiens, un lien et c'est une page web accessible sans comment ils appellent ça, sans gate, tu sais, en marketing, comment ils appellent
ça? C'est ça, ungated.
Ungated, voilà, putain, tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs en marketing. Et toi, Etia, c'est quoi ta reco?
Ma reco, je la dois à Olivier Hérol, qui est déjà passé plein de fois au micro de ce podcast, qui travaille chez Backmarket. C'est Monsieur Fraude de chez Backmarket. Ce matin, il m'envoie une vidéo, il me dit, Etia, faut que tu regardes ça. Je regarde la vidéo qui s'appelle Hack Market. Et voilà, Backmarket a organisé un hack, vraiment, chez pas mal de comment est-ce qu'on dit ça, de magasins d'App Store, en fait, d'Apple Store. Et c'est vraiment... Enfin, allez voir la vidéo. Moi, j'ai très peur pour eux. Je suis prête à organiser une cagnotte pour vous aider si Apple vous fait un procès. Parce que la vidéo, elle est géniale. J'ai pas envie de vous la
spoiler. Je crois que Backmarket, ils ont l'argent pour se défendre.
Ouais, c'est vrai, ils sont licornes. Ouais, bon. mais franchement, bon, je pense qu'il y a une agence derrière. Mais la vidéo est juste géniale. Et ça va vraiment dans... Déjà, ce que je vous ai présenté la semaine dernière avec Mozarda sur la seconde main, la seconde vie, le reconditionné. Pourquoi est-ce qu'on va aller dépenser un SMIC dans un téléphone alors qu'on peut l'avoir moins cher et reconditionné?
Donc, c'est une petite vidéo qui ne dure même pas 5 minutes. On vous invite à la regarder et on vous mettra le lien également.
Merci Olivier.
Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et on s'amuse. Licia et moi, on va être les maîtres du jeu à tour de rôle, autour des sujets du digital et à tous ceux qui sont dans le chat également, vous allez pouvoir participer. On joue sur l'actualité, sur ce qui s'est passé. Licia, qu'est-ce que tu avais cette semaine pour nous?
Eh bien, j'ai un Kikadi, deux Kikadi. Je vais vous citer des citations, des phrases qui ont été dites par des gens de notre écosystème, ou pas d'ailleurs, et à vous de retrouver l'auteur ou l'autrice de ces phrases. Qui a dit « Cela fait des années qu'un Google européen a dû être lancé. Nous étions très en avance dans ces domaines grâce à nos ingénieurs. Je veux mettre en place les moyens de conserver nos données sur le territoire européen. » Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Ou est-ce que c'est Bruno Le Maire?
Moi, je ne vais pas entrer dans la politique parce que je vais... Oh, putain, en plus,
c'est d'actualité. Sauf je veux si dire, mercredi je veux dire, soir, t'étais en train de chercher un cofondateur ou tu voulais être cofondateur de quelque chose.
Non, j'ai pas regardé du tout. J'ai pas du tout regardé la télé à ce moment-là, donc j'en sais rien. Mais donc, tu viens de me donner un indice et ça veut dire que c'était mercredi soir, donc je dirais Marine Le Pen.
Eh oui, c'est Marine Le Pen qui veut que nous créions un Google européen et ça lui fait bobo au cœur que tous les.
Oui, mais bon, il n'y a pas que Marine Le Pen qui le dit. Ça fait des années que je l'entends de politiciens, etc. Oui. Si c'est pas un Google, c'est encore une autre société.
Mais là, t'as tout à fait raison. En plus, ça sort de son contexte parce qu'elle dit ça et en contrepartie, bah, comment est-ce qu'on peut créer un Google européen lorsque ferme les frontières ou en tout cas qu'on s'isole? Bon, bah, au mieux, on crée un Google français qui ne sert qu'au français. Voilà. Allez, bravo Adrien, je te l'accorde. Allez, le deuxième. Je ne veux pas exclure un démantèlement de ces géants de l'Internet. Si cela se révélait nécessaire, il y a des précédents. Theodore Roosevelt, il y a un peu plus d'un siècle, a renforcé la législation antitrust et a poursuivi le Standard Oil, ce qui a mené à son éclatement. Est-ce que c'est Cédric O, je rappelle, ministre chargé du numérique? Est-ce que c'est Nabila? Ou est-ce que c'est Emmanuel Macron?
Je veux dire Macron.
Bravo! Bravo Adrien, c'est un 100%, un sans faute.
Bah merci. De mon côté, on va faire le 113 de la semaine. Donc j'ai inventé ce jeu. Comme tu m'as parlé de cet épisode depuis des mois, tu me dis au niveau 113, tu m'as plus parlé du 113 que du 100. Je me suis dit qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je me suis amusé à aller sur mon site préféré. C'est comme je crois que je vais plus souvent sur ce site que sur Google. C'est LinkedIn. Et j'ai essayé de trouver des boîtes qui ont le nom 113. Et je vais te donner le nom de la boîte. Je vais te donner deux propositions et tu vas me dire qu'est-ce qu'elles font. 113 Industries. Ou si c'est en anglais, 113 Industries. Est-ce que c'est un Big Pharma ou Big Data?
Non, mais j'ai envie de dire Big Data, mais en fait, ça va être Big Pharma, c'est ça?
Alors, non, il faut une réponse, tu ne peux pas donner
allez,
de réponse.
Je ne sais pas pourquoi, mais...
Ouais, Big Data alimenté avec de l'intelligence artificielle, bien joué. Deuxième, Digital 113. Est-ce que c'est un regroupement de boîtes dans du digital ou c'est une web agency?
Ah, ça sent bien, ouais, la web agency, ça.
C'est ta réponse?
Ouais.
Non, c'est un regroupement de boîtes du digital. Je ne sais plus dans quel coin de la France, hein. dans une petite région, ça me faisait marrer. IBEW, Local 113. C'est un syndicat d'électriciens ou c'est une association et étudiante?
Un syndicat d'électriciens.
Ouais, c'est ce que tu dis?
Ouais.
Ouais, j'aurais jamais pu l'inventer.
Tu veux pas être une asso étudiante et t'appeler comme ça, donc bon, bah...
113 Partners. Est-ce que c'est une boîte de conseil stratégique ou un site de rencontre?
Allez, c'est du conseil en site de rencontre
ou qui te fait rencontrer des founders. La Fabrique 113, c'est une DNVB de produits do it yourself ou c'est une boîte de coaching?
Ah, ça peut être les deux, hein. Allez, une DNVB.
C'est une boîte de coaching. Et enfin le dernier, 113 West Productions, c'est une agence de voyage ou une agence de photographe?
photographe. Ouais.
Et c'est une bonne réponse. Bon, je t'avoue que quand tu vas sur LinkedIn, de toute façon, c'est que des trucs business, donc trouver des trucs funky, c'était plutôt difficile.
Compliqué.
Écoute, félicitations, bravo. T'as plutôt bien réussi, donc bravo. Et on se dirige vers la conclusion.
Merci! Merci à toutes et à tous et merci Adrien d'avoir mis mes meilleurs morceaux de toute ma jeunesse. Merci d'avoir écouté, d'avoir assisté à ce live. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans le note de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. Et surtout, si vous avez aimé la bonne ambiance de ce vendredi soir, laissez-nous 5 étoiles sur WhatsApp. WhatsApp, non, sur Google, sur Apple Podcast.
Bah merci à tous, partagez l'épisode autour de vous et puis on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Au revoir, salut Laetitia et salut tout le monde.
Au revoir tout le monde.
Je m'appelle Charlie
et je m'appelle Lulu.
On est sur M6 pour le Hit Machine.